Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy. Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Aujourd'hui, nous traversons l'œuvre de Miro. Du 3 octobre au 4 février, il y a en effet cette grande exposition Miro au Grand Palais. Et Miro nous dit « Un tableau doit être comme des étincelles. Il faut qu'il éblouisse, comme la beauté d'une femme ou d'un poème. Il faut qu'il ait un rayonnement, qu'il soit comme ces pierres dont les bergers pyrénéens se servent pour allumer leur pipe. L'art peut mourir. Ce qui compte, c'est qu'il ait répandu des germes sur la terre. » Pour parler de ces germes, j'ai la chance de recevoir deux personnalités exceptionnelles, deux amis de Miro, Jean-Louis Prat. Jean-Louis Prat, vous êtes un des très très grand commissaire d'exposition. Pendant 35 ans à la Fondation MAC, vous nous avez passionné avec les très grandes expositions collectives comme l'œuvre ultime ou la sculpture des peintres ou les œuvres, les mano à mano pourrait-on dire, Bacon, Freud ou bien l'œuvre comme l'art en mouvement, la grande exposition l'art en mouvement. Et vous êtes en train de faire quatre expositions en même temps. Bravo, hein.
Bravo, bravo. C'est le
quelle
temps.
Forme.
Ah, quelle forme, oui, sûrement. Mais la forme...
Alors,
vous
c'est
savez,
quoi les quatre expositions?
L'exposition, c'est Miro qui va ouvrir.
Ouais.
Au Grand Palais.
Ouais.
Chagall, du Coq à l'âne.
C'est un joli titre pour lui.
À Brioude.
Ouais.
Dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne, un pays où on a peu de chances de voir des expositions, dans un lieu entièrement rénové, formidable, et où Chagall a eu l'idée en 1926 de travailler en Auvergne. Donc j'ai eu l'idée de présenter les fables de La Fontaine dont il a réalisé une partie des gouaches au Chambon-sur-Lac. Et cette exposition connaît un grand succès et j'en suis très heureux pour l'Auvergne. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne celle-ci. Miro, on attend de voir ça donnera.
Ouais.
Et puis...
Henry Moore.
Et il y a Henry Moore, évidemment, à Landerneau. Je suis co-commissaire, parce que j'avais tellement de choses à faire que j'avais demandé quand même une aide.
C'est la fondation Hélène et Édouard Leclerc?
C'est le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau, un lieu d'exception où il y a des œuvres très importantes qui sont à la fois dans ce lieu qui a été entièrement dédié à l'art et également dans la ville, et également une grande sculpture à Brest.
Et comme vous trouvez que c'est pas assez, vous préparez une exposition à Madrid, je crois.
Madrid, mais ça c'est un peu début d'année prochaine. Voilà. Donc.
Et ça, qu'est-ce que ça sera?
C'est sur les avant-gardes russes.
Vous aviez déjà travaillé là-dessus, il me semble, à Monaco.
J'ai fait absolument. Et j'avais fait aussi une exposition à la Fondation, avec l'aide des Russes, qui m'avaient prêté des œuvres merveilleuses, qui venaient de toutes les grandes institutions russes, de la Galerie Nationale Tretiakov au Musée d'État Russe, de Rostov-sur-le-Don à Krasnodar, ou les grandes villes de Russie, avec ces dépôts qui avaient été faits pendant la Révolution, et qui ont permis de dire qu'il s'était passé quelque chose d'essentiel, qui a inondé tout l'art du XXe siècle, et qui nous a raconté la véritable, les risques et la modernité.
Oui, enfin, vous dites que ça a inondé tout l'art du XXe siècle. En vérité, l'avant-garde russe a disparu du radar de l'art du XXe siècle entre 1926 et 1975, quand il y a eu l'exposition Paris-Moscou ou Malevitch, à peu près, au Centre Pompidou.
Tout à fait, faite par Pontus-Gulten. Mais il y a eu cela, elle avait disparu, mais enfin, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient partis et qui avaient essaimé dans des pays.
Et beaucoup étaient à Paris, d'ailleurs.
Beaucoup étaient à Paris. Kandinsky, Chagall.
Larionov,
Gontcharova. Mais il y en a d'autres qui sont
partis. Mais attendez, c'est pas le sujet, hein.
Non,
vous êtes venu avec un ami. Et cet ami, il faut absolument que je le présente. Puis vous voyez, moi, vous vouliez le faire vous-même. Mais c'est un grand pianiste, hein. Alain Planès. Bonjour, Alain, vous allez
bonjour,
bien?
Bonjour, oui, ça va très bien.
Écoutez, je dis en deux mots, deux petites choses. Mais, vous avez été pianiste soliste de l'ensemble intercontemporain de Pierre Boulez jusqu'en 81. Vous avez joué ici, il y a quelques jours, jour l'intégrale de Debussy. C'était sur France Musique, vous avez pu l'entendre. C'est considérable. Vous avez enregistré en 2009 Chopin chez Pleyel, sur piano d'époque, hein, je crois.
Oui, sur un magnifique Pleyel de cette époque-là.
Piano d'époque, vous l'avez fait avec Scarlatti aussi ?
Oui, avec Scarlatti. Sauf que Scarlatti, c'est plutôt de la musique de clavecin, mais j'ai pensé que finalement, une fois que le clavecin avait disparu, on jouait ses sonates sur un fortepiano. Et donc, ça m'a intéressé.
Vous avez fait la même chose avec d'autres ?
J'ai enregistré dans mon intégrale Debussy, il y a un enregistrement qui est en effet sur un... Deux enregistrements, hein, qui a les préludes qui ont été faits sur un piano Bechstein de 1890. Et l'autre sur un piano Blüthner, qui était le piano préféré de Debussy, qui date de 1903.
Bon, rentrons pas trop dans les détails, parce qu'on n'est pas sur France Musique ici, hein, c'est France Culture, donc oui, on a un autre angle. Hein.
D'accord.
Et la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est pas seulement parce que vous avez aussi enregistré Janáček, par exemple, hein, c'est parce que vous êtes, comme Jean-Louis, vous avez connu Miro.
J'ai eu cette chance.
Vous avez eu cette
plus
chance.
Plus tardivement que Jean-Louis, et grâce à Jean-Louis, d'une certaine façon.
Avant qu'on rentre dans l'exposition, et comment avez-vous rencontré Miro ? Quelle personnalité avez-vous appréciée chez lui ? Comment était-il ?
Oh, c'est un homme, je dirais, c'est l'homme qui m'a le plus marqué probablement, et qui a été c'est un homme généreux, ouvert, simple, et qui avait le don d'appréhender ce qui se passait, de comprendre et de faire attention aux autres, l'attention aux autres. Et cette création a été marquée toute sa vie par ce qui se passait autour de lui. Il en a rendu compte d'une façon extraordinaire, mieux que beaucoup d'autres qui prétendaient le faire. Et je dois dire qu'il est un des monuments du XXe siècle dans la peinture, parce que il a inventé un langage qui est nouveau, qui est neuf, qui est un langage poétique, qui n'a rien à voir avec la figuration ou l'abstraction, mais qui dit qu'on doit être comme ça attentif aux mots des poètes dont il a été très ami, et de tout ce monde qui nous entoure et qui est hostile. Et il l'a connu. Il a connu quand même deux guerres mondiales, et il y a échappé, bien sûr, mais enfin, il a connu également la guerre en Espagne. Et donc, c'est un homme qui a su toujours prendre parti et se défendre et défendre les autres.
Grand peintre, grand sculpteur. Alors, quand on dit grand peintre, c'est avec une écriture très particulière, parce qu'on peut pas dire que son écriture est cubiste, réaliste, surréaliste, etc. C'est une écriture très autonome, au fond.
C'est une écriture totalement autonome, c'est une écriture libre. C'est un homme qui disait, il me faut un point de départ, ne serait-ce qu'un grain de sable ou un rayon de lumière, un éclat de lumière. Et c'est vrai qu'à partir de là, il partait dans des rêves et il nous a emmenés dans ses rêves. Et il nous a permis de voyager comme ça dans un monde qui donnait l'espoir. Et je crois que c'est un des rares qui traduit au XXe siècle quelque chose de si neuf. Et il est, à mon avis, le langage du futur. C'est pour ça qu'il est assuré d'une pérennité extraordinaire.
Jean-Louis, vous nous dites cela en même temps comme si c'était une information optimiste. C'est comme si c'était un artiste optimiste. Alors moi, je le trouve très souvent dans ses propos tragique.
Mais il est tragique. Mais il est tragique, mais le tragique, il traduit ce qui se passe.
Alain Planès, vous êtes d'accord ?
Oui, moi, un jour, il m'a dit, tu sais, si j'avais pas eu la peinture, je me serais suicidé depuis longtemps. La famille, je m'en fous. Le monde, je m'en fous. Donc ça prouvait une grande mélancolie. Mais pour reprendre un peu ce qu'a dit Jean-Louis, moi je trouve que surtout, il a été celui qui a influencé toute la génération d'après-guerre, les Américains, les Pollock et autres.
Il y a eu un retour, il a été aussi influencé.
Picasso.
Il a été aussi influencé par les grands Américains. Il les a admirés.
Il a eu les deux.
Il a un petit peu, mais je pense qu'il a plus influencé les Américains comme Pollock et les autres que d'avoir été un... Non. Bon, je vois
on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. C'est très intéressant. Non. Je voudrais juste, puisqu'il nous faut un point de départ, c'est ce que vous disiez que Miro nous disait. Écoutons ce qu'il disait exactement.
De toute façon, il me faut un point de départ. Ne serait-ce qu'un grain de poussière ou un éclat de lumière. Cette forme procrée une série de choses, une chose faisant naître une autre chose. Ainsi, un bout de fil peut-il déclencher un monde ? J'arrive à un monde en partant d'une chose prétendue morte. Et comme je mets un titre, cela devient encore plus vivant. Je trouve mes titres au fur et à mesure que je travaille, que j'enchaîne une chose à une autre sur ma toile. Quand j'ai trouvé le titre, je vide dans mon atmosphère. Le titre devient alors pour moi une réalité 100%, comme pour un autre le modèle, une femme couchée par exemple. le titre est, pour moi, une réalité exacte. Le cheval, la pipe et la fleur rouge. Main à la poursuite d'un oiseau. Figure devant une métamorphose. Une étoile caresse le sein d'une négresse. Femme au bord du lac, à la surface irisée par le passage d'un cygne. Femme entourée d'oiseaux regardant le lever d'une étoile. Le soleil rouge ronge l'araignée. Jeune fille s'évadant. L'oiseau au plumage rougeâtre annonce l'apparition de la femme éblouissante de beauté. L'oiseau se niche sur les doigts en fleurs. Les oiseaux de proie foncent sur nos ombres. L'espoir du condamné à mort. Juan Miró, entretien avec Yvon Taillandier, 1959.
Alors que nous entendons les notes d'Éric Satie jouées par Alain Planès, que nous avons la chance d'avoir sur notre plateau à l'instant même, nous parlons avec Jean-Louis Prat et Alain Planès de leur ami Miró. Et nous venons d'entendre cette énumération de titres. C'est de la poésie, Jean-Louis Prat, qu'en pensez-vous ?
De la poésie, et la plupart des titres que vous venez d'évoquer, qui viennent d'être dit là tout de suite, eh bien, figurent dans l'exposition du Grand Palais.
Mais je ne l'avais pas fait par hasard, hein. Non. Je les ai choisis.
Vous avez bien choisi, voilà. Donc, ils y sont et ils racontent, oui, ce langage extraordinaire qui était inventé par Miró, ou que Miró confiait des fois à d'autres. Jacques Dupin, par exemple, un très grand poète qui était son ami, a souvent donné des titres pour des œuvres de Miró. Mais c'était une connaissance totale et une amitié profonde. Et le fait que l'un entrait dans la lumière de l'autre permettait de dire qu'il était tout à fait d'accord. Mais c'est véritablement la poésie de Miró aussi de donner ces titres merveilleux. La main à la poursuite d'un oiseau. Eh bien voilà, on verra cette main qui poursuit un oiseau dont on cherche d'ailleurs un peu l'oiseau ou un peu la main, mais on les découvre très vite. Voilà.
Alain Planès, vous trouvez que c'est un poète, Miró ?
Ah mais c'est un poète, il a écrit...
Enfin, c'est pas une métaphore, c'est qu'il est en plus un écrivain,
plus,
poète.
C'est un écrivain, poète, et je trouve que c'est très dommage. Enfin, ses textes ont été publiés, mais sont passés très inaperçus, et sa poésie est tout à fait conforme à ses titres si poétiques qu'il donne à ses œuvres.
Probablement parce qu'on n'aime pas, tu sais,
les mélanges.
Les mélanges et les artistes qui ont plusieurs destinées.
Voilà. Oui.
Et que la poésie de Miró, tout comme la sculpture de Miró était pratiquement inconnue jusqu'à la fin de sa vie. Elle a été difficile à mettre en évidence parce que c'était une œuvre qui apparaissait, comme celle de Picasso d'ailleurs. Picasso, on a découvert la sculpture de Picasso après la mort de Picasso. Même Canveller ne l'avait pas présentée dans sa galerie, la galerie des Rices. Donc, il y avait aussi, on n'aime pas les artistes protéiformes comme ça.
Non.
Et les gens qui ont plusieurs facettes extraordinaires et du génie dans différents domaines.
Vous avez raison, Jean-Louis. Jean-Louis, j'aimerais bien que vous nous disiez comment l'aventure de Miró a commencé, parce que un Catalan dans une visiblement qui vit à la campagne, comment est-ce que il a pu se passionner, être informé, être très vite bon dans son domaine? Comment alors, ça a commencé là?
Un Catalan qui vit dans sa province, oui. Mais Miró s'est toujours réclamé de la Catalogne. Miró a toujours dit qu'il aimait son pays, bien sûr, et qu'il aimait l'Espagne, mais il en a retiré ce qu'il y avait de bien, c'est-à-dire tout ce qui est culture populaire, cet art populaire et cet art roman qui peuplait aussi toute cette région. Et puis Gaudi, qui l'a beaucoup influencé. Et tout de suite, il a voulu se détacher du métier dans lequel on a voulu le mettre, dans les écritures, chez un notaire, pour se consacrer à la peinture. Et il a découvert la peinture aussi à Barcelone, avec d'autres amis qui peignaient comme lui. Mais tout de suite, quand il a vu, même pendant la guerre de 14, quand il y a eu une grande exposition d'art français qui venait, il a vu les fauves, il a vu d'autres artistes, il a dit formidable, bon, et il a eu envie de les connaître, c'est ce qui fait qu'il va partir après la guerre directement à Paris pour voir ce qui se passe à Paris. Et il dira à un ami, Ricart, un autre peintre catalan, en 1920, je l'ai mis dans le texte d'ailleurs, voilà, je suis désormais Barcelone, c'est fini, c'est pas pour dire que c'est terminé, mais il l'écrit. Je suis un Catalan international, un Catalan casanier. Nan, il n'aura jamais de raison d'être, ça revient à ça. Et c'est vrai que Miro s'est ouvert tout de suite aux autres. Probablement aussi grâce à...
Pardon, je vous interromps, Jean-Louis, parce que j'ai deux questions à vous poser avant que vous continuiez, oui. Pour aller dans ce sens-là.
Oui, Jean.
D'abord, il reste catalan, c'est-à-dire attaché à son village. Comment s'appelle ce village?
Montroig.
Comment est-ce qu'on prononce oui,
Montroig.
Et international, il arrive, c'est ce que vous alliez dire, à Paris. Mais comment se fait-il qu'arrivant à Paris, en quelques heures, on a l'impression, il connaît les uns et les autres, tout le monde?
Ah, ben c'est cette curiosité indicible et puis cette ouverture qui vient aussi peut-être de ce pays. Vous savez, la Catalogne est ouverte sur la Méditerranée. La culture méditerranéenne est là. Donc il y a eu toujours un contact avec l'extérieur. Et Miro a toujours souhaité ça. Et puis il aimait aller rencontrer les autres. Il aimait rencontrer des artistes, d'autres artistes. Alain, il était heureux de le rencontrer en tant que pianiste et humain de découvrir et d'entendre. Bon, mais il a toujours eu ce sentiment-là qu'il fallait être attentif aux graveurs, aux lithographes, à l'écrivain, au poète, qu'il rencontrait. Tout de suite, il s'est lié d'amitié, oui, parce qu'il a vécu à Paris.
Qu'est-ce qu'il a connu tout de suite? Parce qu'il s'est installé rue Blomet,
Picasso, d'abord.
André Masson,
oui.
Desnos.
Donc Bataille, probablement.
Oui, tout ce groupe, Léris et compagnie, Breton. Et puis Picasso. Mais bon, Picasso vient après, je dirais qu'ils sont toujours admirés, ils se voyaient beaucoup quand ils venaient à la Fondation.
Calder, peut-être aussi.
Calder, bien sûr, qui connaîtra, mais Calder qui achètera son tableau.
C'est peut-être les deux artistes dans lesquels formellement il y a le plus de proximité, non, Calder et...
Probablement, parce qu'il y a même eu à un moment un travail, non pas en commun, mais avec les mêmes titres, Constellation. Il y avait une magnifique exposition à New York où j'étais là, au mois d'avril, qui regroupait les Constellations de Miro dans une galerie.
Alors les Constellations, c'est des œuvres des années 40 qu'il a fait à Varangeville, voilà. À côté de Braque, qui était son ami, et qui était une sorte de ces tableaux de guerre, néanmoins.
Ce sont des tableaux de guerre, mais ce sont des tableaux, justement, où il envisage un autre monde que celui de la guerre qu'il avait vu venir poindre dès les années 30. Et il l'avait vu, et la montée du fascisme et des populismes qu'il a vu dans les années 30, Miro, je serais curieux de voir ce qu'il dirait, quelle serait sa réponse par rapport à ce que nous vivons. Il serait sûrement avec des réponses formidables et avec généreuses, parce que Miro était un homme très généreux. Et il aurait donné des réponses très fortes, très vivantes. La période sauvage des années 34, on voit très bien ce qui se passe. Parce qu'il n'y a pas que des rêves, dans les rêves qui étaient les siens, il n'y a pas que des formes qui sont idéales. Il y a aussi des monstres, des fois, ça arrive.
C'est très violent
à ce moment-là.
Il a des monstres extraordinaires. Il a des peintures des années sauvages qui sont d'une force extraordinaire. À l'égal de Picasso, qui voit poindre ça, ça n'est pas par hasard qu'ils se retrouvent au pavillon de l'Espagne républicaine, avec Calder, qu'ils appelleront en recours, et puis González.
Oui. Mais et malheureusement, l'œuvre a disparu.
L'œuvre a disparu, de Miro.
Oui, de Miro.
Oui, l'œuvre a disparu, malheureusement.
Qui était à côté de Guernica. C'était deux chefs-d'œuvre.
Oui, c'était deux chefs-d'œuvre.
C'était Le Faucheur, ça s'appelait.
Le Faucheur était une œuvre très grande, dont on représentera dans l'exposition au Grand Palais la photo Miro retouchant et travaillant sur une échelle à retoucher quelques détails de ce tableau, qui faisait plus de 4 mètres de haut, et qui était un tableau très important, et qui était en plusieurs parties. C'est probablement ce qui fait que, quand ils ont démonté le pavillon de l'Espagne républicaine, ils ont hélas détruit ce tableau sans s'en rendre compte. Il n'a jamais reparu et il ne réapparaîtra jamais, malheureusement.
Alain Planès, vous avez connu Miro un petit peu plus tard,
oui,
évidemment, c'est-à-dire vers quelles années?
Je l'ai connu en 1978.
Et pourtant, vous avez un regard sur les premières œuvres. Je vous ai vu tout à l'heure regarder avec curiosité un tableau que vous connaissez donc forcément bien, qui est cette revue, ce tableau où il y a Nord-Sud,
la revue de Pierre Reverdy.
Et c'est curieux parce que là, c'est un tableau du tout début, c'est-à-dire qu'il n'est quasiment pas venu en France encore. Et il sait déjà, il lit ça déjà.
Ah, mais il sait qui est Pierre Reverdy.
Oui, ils se sont connus du reste.
Reverdy était très connu.
Là, on est en 1917, il n'est pas encore venu à Paris.
Non, mais il a vu aussi les tableaux de cette époque-là en Espagne.
À Barcelone, dans une galerie peut-être.
C'était une grande exposition d'art français qui avait été organisée par le gouvernement français pendant la guerre. Et il a vu ces tableaux, et donc il a su aussi tout de suite... Et puis il n'est pas resté fermé, il voulait s'informer, et il voulait connaître. Et la générosité qu'il avait pour les mots, pour les personnes, eh bien l'a conduit immédiatement vers les poètes. Parce qu'il s'est dit qu'ils avaient un pouvoir très particulier, très singulier, de dire avec très peu de choses, comme le dira même à la fin de sa vie Prévert dans Adonide, ce livre merveilleux où il met le sublime et corrosif. Eh bien oui, c'est vrai que ça résume beaucoup de choses. Eh bien, Miro était dans ce monde-là, prêt à se sublimer pour quelques mots et à inventer un monde qui nous a enchantés, qui nous a fait rêver, nous aussi.
Et puis, il était aussi abonné à la revue de Picabia, qui s'appelait, je ne sais plus 391.
Oui, bien sûr.
Picabia avait organisé une exposition,
il me semble. Dans la galerie d'Almao, évidemment.
D'Almao,
voilà. Parce que cette galerie d'Almao, c'était une clé d'information pour
c'est
le...
C'est la première galerie dans laquelle il a...
C'est une galerie de Barcelone. Hein, c'est une galerie de Barcelone dans laquelle il y avait Gris, il y avait Picasso, il y avait Picabia, bien entendu.
Bien sûr, il y avait tous ceux qui voulaient dire quelque chose de neuf et qui ne se contentait pas de la convention et de l'académisme. Quand Miro a dit quelques années plus tard « Je veux assassiner la peinture », c'était pas d'assassiner la peinture, c'était évidemment d'assassiner la convention et l'académisme.
Il revient souvent sur l'idée de la destruction de la peinture. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain Planès ? Vous pensez que la destruction se fait partie d'un ressort essentiel dans la création ?
Je pense. Pierre Boulez voulait brûler les opéras. Les maisons d'opéra. Je pense que chaque créateur qui est d'avant-garde, ou en tout cas qui pose des jalons pour le futur, est obligé d'être en rébellion contre son époque ou contre ce qu'il est advenu avant, et surtout contre toutes les choses ennuyantes qui sont l'académisme.
Ça me fait penser à Mallarmé qui disait « La destruction est ma Béatrice ».
Et oui. Oui,
c'est ben important.
Oui, bien sûr.
Alors, il y a un tableau quand même au début de la carrière de Miro qui me paraît essentiel et il faudrait que vous nous en parliez parce qu'il a, je crois, beaucoup frappé. C'est la ferme. C'est une entrée comme ça dans le grand Miro, non ?
La ferme, c'est un tableau essentiel. C'est un tableau qui a été qui marque la fin de la période détaillée.
Vous pouvez le décrire, Jean-Louis, s'il vous plaît.
Moi, c'est très simple. C'est la ferme dans laquelle il vivait, qui avait été achetée par ses parents à Montreuil, et qui est un bâtiment qui maintenant est transformé en lieu d'exposition par la famille et qui est devenu un point essentiel également qu'ils ont toujours gardé. Cette ferme, eh bien, Miro y allait, il passait beaucoup de temps et il voyait les paysans travailler. Il y avait les animaux familiers, puis il voyait ce qu'il faisait, le travail. Quand il dit « je travaille comme un jardinier », il a très bien vu les jardiniers, comment ils travaillaient. Et il a vu le respect qu'il leur devait et le travail qu'il faisait qui était tout à fait exceptionnel. Donc Miro a été attentif et il a interrogé la terre comme il saura interroger le ciel.
Alors c'est un tableau, c'est un grand tableau, il fait 1,50 m de large à peu près. Il a un style presque naïf, hein, avec un ciel bleu, presque un aplat bleu.
Oui, mais ne trompons pas sur le côté naïf. Il est détailliste et il analyse totalement, scrupuleusement ce qu'il voit. Ce qu'il voit pousser, ce qu'il est, les animaux ou les ustensiles qu'utilisent les paysans. Et il donne un apport considérable à l'idée que l'on se fait de l'œuvre de Miro en interrogeant à la fois la terre et le ciel, ce qu'il fera plus tardivement. Mais c'est un tableau clé qui est à la National Gallery de Washington et qui sera présent dans l'exposition.
Vous l'avez dans l'exposition.
Oui, bien sûr.
Ça, c'est vraiment. Et alors, il a eu un destin bizarre parce qu'il y a Hemingway qui est derrière. Hemingway est en Espagne, il va avoir des corridas, je suppose, non? C'est ça.
Hemingway l'a acheté. Il l'a acheté à Paris.
Ah oui.
Il l'a pas acheté en Espagne. Il l'a acheté à Paris quand il était correspondant de guerre. Et quand il est venu, il était là. Ils sont battus dans un. Ils l'ont acheté, ils étaient deux, ils ont joué ça au dé, et c'est lui qui l'a remporté, et il est resté toujours dans la collection d'Hemingway, et c'est la fille d'Hemingway, les parents d'Hemingway, enfin les enfants d'Hemingway qui ont donné le tableau à la National Gallery de Washington.
Écoutons peut-être ce que dit Hemingway de ce tableau, en 1934.
Il l'écrit.
Quand je fis la connaissance de Miro, il avait très peu d'argent et pas grand-chose à manger. Et il travaille depuis 9 mois, tous les jours, du matin au soir, à un très grand et magnifique tableau, La Ferme. Il ne voulait pas vendre ce tableau, mais refusait même de s'en séparer. Personne n'avait pu le voir. Tout le monde ignorait qu'un tableau venait d'être peint par un grand peintre. Et quand on peint des choses que des gens doivent accepter de confiance, il est bon d'avoir près de soi quelque chose qu'on a mis autant de temps à faire qu'une femme un enfant, et qui prouve même aux imbéciles que vous êtes un grand peintre dans les termes où ils l'entendent. Après que Miro eut peint La Ferme et que James Joyce eut écrit Ulysse, ils avaient le droit de s'attendre à ce que les gens apprécient leurs œuvres futures, même s'ils n'y comprenaient rien. Et ils ont tous les deux continué à travailler très dur. Ernest Hemingway, 1934.
Vous êtes sur France Culture et nous parlons dans cette émission L'art et la matière de Miro. Et nous en parlons avec deux de ses chers amis, des personnages merveilleux. Alain Planès, vous étiez en train d'écouter Hemingway, on parlait de ce tableau La Ferme, et il y a eu ce mot malheureux que j'ai peut-être eu, naïf. J'ai été repris par Jean-Louis Prat qui a dit détailliste, et vous avez peut-être un autre mot.
Ben, je trouve que c'est presque hyper réaliste, parce que quand on voit la façon dont il a dessiné chaque détail, bien sûr à sa façon, mais je trouve que ça annonce un peu ce que sera l'hyperréalisme américain bien des années bien plus tard.
Alors quand il fait La Ferme,
peut-être je me trompe,
avec une idée poétique en même temps.
Bien sûr, oui.
Et ça, il y a toujours ce sentiment avec la couleur étonnante qu'il met dans chaque forme et qu'il s'est magnifié par l'appoint comme ça, le regard qu'il pose sur un objet, sur un personnage, sur la terre. Ce respect qu'il avait pour la terre et qui lui fera même faire ensuite une céramique extraordinaire plus tardivement.
Mais avec son ami céramiste qui est un...
Artigas,
avec lequel il a été lié pendant 40 ans, 50 ans.
Il a été lié toute sa vie, oui, il l'a connu très tôt. Oui. Il a travaillé avec lui, il a beaucoup appris de lui.
Artigas était surpris de son intervention. Je pense qu'Artigas pensait qu'il ferait juste un peu de peinture sur les peaux, mais il a été beaucoup plus loin.
Non, Artigas lui a montré une tradition. Et vous savez, Miro adorait les artisans. Il les respectait tellement qu'il avait pour eux une passion. Et c'est vrai que les artisans, d'ailleurs, traduisait également en l'aidant beaucoup, mais il a découvert tout de suite avec Artigas, un artiste de génie. Et beaucoup d'œuvres, d'ailleurs, sont signées Miro Artigas. Miro y tenait. Et il y avait aussi cette part du feu, qui est quand vous faites une poterie, quand vous faites une céramique, vous la mettez
Elle se transforme,
et les couleurs que vous attendez ne sont pas toujours celles que vous attendez. Mais elles peuvent vous apporter quelque chose d'essentiel, parce qu'elles modifient votre regard, et vous ne l'acceptez pas, vous pouvez détruire, vous pouvez le garder. Mais il regardait pour ça, parce qu'il se disait, tiens, j'ai été surpris moi-même, et il adorait les surprises. Il adorait les surprises dans tous les domaines. Et il aimait être surpris par les autres, et par lui-même, il s'étonnait. Il rêvait pas la nuit, il rêvait le jour. En travaillant, il le disait.
Alain Planès, vous aimez les céramiques de Miro ?
Moi, je suis un fanatique de Miro. Et je pense que c'est le plus grand artiste de son époque. Je le mets bien au-dessus de Picasso. Je me souviens qu'un jour, je lui avais dit, mais Johan, bon, évidemment, à part toi, qui est... pour toi, le plus grand peintre du XXe siècle. Et je m'attendais évidemment qu'il me réponde Picasso, et il m'a dit Matisse.
Oui, c'est curieux. Et donc, bien qu'il y ait quelques tableaux du début, on a l'impression qu'il a vu les sculptures de Matisse. Plutôt les sculptures.
Oui, peut-être.
Mais c'est inattendu.
Oui, j'étais surpris de cette réponse.
Ah, oui, il avait du respect pour Picasso. Oui, il voyait en lui un artiste évidemment majeur qui était... quelqu'un qui avait vécu avec une passion tout à fait différente. Vous savez, c'est le problème de tous les artistes. Chacun sa vérité. Et la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Et ce qu'ils expriment par la même nous dit, dans une vérité qui se regroupe et qui est commune, quelque chose de différent, qu'on n'est pas dans l'intolérance, ni dans quelque chose qui nous conduit sur des frontières très dangereuses.
Mais, pardon Jean-Louis, pour Matisse, il n'y avait pas de lien particulier, hein?
Très bien connus.
Ils sont bien connus, mais ils n'ont pas fraternisé,
vraiment.
Non, si. Mais Matisse était un homme qui vivait un peu, pas à l'écart, mais oui, qui a vécu toujours dans une certaine retenue, comme ça. Mais il y a eu des liens, bien sûr.
Oui,
il y a eu des liens aussi par la Galerie Mag, parce qu'ils ont été aussi, ensemble, défendus par Aimé et Marguerite Mag dans leur galerie.
Alors on a l'impression que vers les années 20, 25, 24, 25, il y a une transformation complète de la structure du tableau. Ça s'ouvre complètement, l'horizon devient beaucoup plus indistinct et les formes se mettent à flotter sur l'ensemble du plan sans qu'il y ait de centre.
Oui, il y a comme ça
ce
sentiment de lévitation presque, oui, des formes, et de lévitation des formes qu'il met dans un espace auquel on ne s'attendait pas. Évidemment, il n'est pas contraint, lui, par ce qu'il a vu, par le cubisme ou par d'autres. Il a regardé tout ça.
Il a été sollicité par les surréalistes, quand même.
Il a été sollicité par les surréalistes. Il a fait partie, évidemment, d'expositions surréalistes dès 1925-26, mais il n'a pas voulu adhérer au diktat que Breton aurait pu imposer et qu'il a, quelque part, intellectuellement, il avait une autorité comme ça, que Miro ne lui contestait pas, mais comme il voulait rester indépendant, il était toujours resté indépendant et toujours resté libre. C'est sa vie qui le prouve. Et cette liberté-là, il l'a mis au service de la peinture, de la sculpture, ou de la... regardez dans la sculpture ce qu'il a pu inventer. Il a fait quelque chose qui est absolument étonnant. L'accumulation d'objets insolites à des objets hétéroclites, et de créer comme ça des sculptures dont on se dit maintenant qu'elles sont des symboles justement vivants de ce qu'il fallait faire pour échapper à la tradition de la sculpture qui était celle du corps, et voilà, et qui ne voulait pas reprendre les diktats imposés par cela.
On a l'impression, Alain Planès, que les tableaux à partir de 1925 deviennent très musicaux. Simplement, un petit peu comme certains tableaux de Kandinsky de la même période.
Exactement, et je trouve que, bah, du reste, je ne suis pas le seul, mais Jacques Dupin l'a dit, Miro est le peintre le plus musical qui existe, parce qu'il y a une sorte de polyphonie, et il y a des couleurs. Bien sûr que, c'est difficile d'expliciter en quoi la musique, ce qu'est la musique déjà, mais je trouve que et vous avez raison de le dire, parce que Kandinsky aussi, je pensais à ça, que Kandinsky a aussi un côté très musical, avec une construction qui ressemble aux constructions musicales. Et chez Miro, moi je ressens
Paul Klee, il y a des liens avec
du reste, moi il m'avait dit qu'il avait été extrêmement impressionné par une exposition de Paul Klee qu'il avait vue boulevard Raspail dans les années 20.
Bien sûr.
Et qui avait été une grande influence,
une révélation
pour lui.
Oui, et je pense que certains de ces tableaux très durs, comme ça, avec des grands traits noirs, très structurés, comme ça, des grands, sont très Paul Klee. Il y a un petit moment assez bref, où il y a un petit aspect
Mais
Paul
il Klee. Reconnaissait... quand même s'il voulait assassiner et faire tabula rasa, Miro, il vient quand même de ce qui s'est quand même passé avant lui.
Mais vous avez parlé de musique avec lui ?
Mais bien sûr, parce que c'était un grand mélomane.
Mais je ne savais pas ça, justement.
Et il était un grand ami de Varèse. Il a fait plusieurs couvertures pour des disques de Varèse. J'ai même fait le correspondant.
C'est une musique concrète, Varèse, d'une certaine façon. Oui. Comme lui, il est très concret aussi.
J'ai même fait le correspondant entre Miro et Boulez. J'ai transmis des lettres à Boulez que Miro lui envoyait. Et surtout, il était un grand ami de John Cage. Il avait des partitions que John Cage lui avait offertes. Et surtout Stockhausen, qu'il avait découvert à la Fondation Macht dans les fameuses nuits.
Le non-conformisme.
Et qu'il aimait beaucoup. Et sa collection de disques était très précise, très bien rangée, je m'en souviens très bien. Et ça allait des chants grégoriens aux dernières œuvres de Boulez et Stockhausen et Berlioz.
Vous le ressentez, Jean-Louis Prat, dans sa peinture
Oui, moi je le ressens, parce que je trouve qu'il y a là des rythmes qui sont donnés, rythme. Et le sentiment qu'on est dans quelque chose de musical, mais même les accords avec la couleur. Et donc, je dirais, ces oppositions, ces rapprochements, ces scintillements, cet éblouissement qu'ils donnent. Et il y a quelque chose qui, oui, il y a des effets qui sont ceux aussi, mais finalement, c'est là où l'art est extraordinaire. Alain parle admirablement de ça, évidemment, c'est son métier et sa passion, il le vit d'une manière extraordinaire. Mais c'est vrai qu'il y a ces rencontres comme ça et ces fusions. Il aimait aussi la musique populaire qui était les sardanes et cet art très simple. Et on a donné à la Fondation un spectacle avec la troupe de la Claca, et qui était absolument étonnant, où il y avait non seulement les costumes qui avaient été faits par Miro, mais la musique qui avait été choisie un peu et qui venait justement de cette musique traditionnelle, populaire, espagnole, de cet art qu'il adorait et qu'il mettait en place et en scène tout le temps.
De reste, la première fois que je suis allé chez Miro et Pilar, à Palma, en 1978, c'était en décembre, et Miro m'avait recommandé d'aller à la messe de Noël, à la cathédrale de Palma, pour entendre le fameux chant de la Sibylle. qui était un chant ancestral qui venait, on pensait, de la musique grecque et qui était toujours chanté à l'occasion de la messe de Noël par un adolescent.
Qui
se transmettait oralement. Et ça m'avait beaucoup marqué, en effet.
C'est la même tradition qui occupe Miro, finalement, pour l'art le plus simple. Quand il admire l'art de la préhistoire et l'art des cavernes, et je dirais qu'il y a pour lui la reconnaissance de la présence de l'homme qui laisse comme ça quelque chose de parfaitement juste et qui traduit sa vie. Et Miro était là dans cette recherche. C'est pour ça que il nous touche et il nous éblouit, parce qu'on se dit que, tiens, ce trait lancé à l'aventure d'un espace gigantesque, qui n'est pas un trait lancé à toute allure, pas du tout, il mettait un temps fou pour le faire, ou la tâche, ou le... Eh bien, c'est tellement juste qu'on finit par être nous-mêmes éblouis de ce qu'il a réussi à faire, parce qu'il le pose avec une telle précision et une telle vérité par rapport à lui-même, qui nous transmet ce sentiment-là.
Il connaît, vous parlez de cela, il a connu, il a été à Altamira, il a...
Oui, il a vu tout cela, il a vu les grottes.
Parce qu'Altamira, en 1901, c'est déjà là, donc c'est ouvert, c'est Lascaux 44, enfin bon, c'est...
Tout, il connaissait tout ça, et il avait une passion pour cet art.
Ces sculptures sont des déesses mères, parfois. C'est vraiment des déesses préhistoriques, incroyables.
Il a trouvé avec ça, vous savez, les sculptures, il les créait aussi en partie en se promenant et en récupérant quelques objets insolites.
Alors, écoutons-le peut-être, c'est aussi dans l'entretien avec Yvon Taillandier, quand il parle de ce que c'est qu'un objet et en quoi les objets le concernent.
Pour moi, un objet, c'est vivant. Cette cigarette, cette boîte d'allumettes contiennent une vie secrète beaucoup plus intense que certains humains. Quand je vois un arbre, je reçois un choc, comme si c'était quelque chose qui respirait, qui parlait. Un arbre, c'est aussi quelque chose d'humain. L'immobilité me frappe. Cette bouteille, ce verre, un gros galet sur une plage déserte, ce sont des choses immobiles, mais elles déclenchent dans mon esprit de grands mouvements. Je n'éprouve pas cela devant un être humain qui se déplace tout le temps d'une façon idiote. Les gens qui vont se baigner sur une plage et qui remuent, ça me touche beaucoup moins que l'immobilité d'un caillou. L'immobilité me fait penser à de grands espaces où se produisent des mouvements qui ne s'arrêtent pas à un moment donné, des mouvements qui n'ont pas de fin. Cela se traduit sur mes toiles par des formes semblables à des étincelles sortant du cadre comme d'un volcan. Le spectateur serait comme un acteur lisant un poème qui lui paraîtrait un non-sens absolu s'il ne sentait pas ces mouvements dans mes tableaux. Les formes sont à la fois immobiles et mobiles dans mes tableaux. Elles sont immobiles à cause de la netteté de leurs contours et de cette sorte d'encadrement où elles sont situées parfois. Mais précisément parce qu'elles sont immobiles, elles suggèrent des mouvements. Comme il n'y a pas de ligne d'horizon ni de repère en profondeur, elles se déplacent en profondeur. Elles se déplacent aussi en surface parce qu'une couleur ou une ligne amène fatalement un déplacement de l'angle de vision. À l'intérieur des grandes, de petites formes remuent. Et quand on regarde l'ensemble du tableau, les grandes, à leur tour, deviennent mobiles. On peut même dire que, tout en conservant leur vie autonome et sans se modifier, elles se bousculent. Juan Miro, entretien avec Yvon Taillandier, 1959.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous parlons de qui Alain Planès ?
De Joan Miró et non pas Juan Miró. Parce que Joan Miró est un catalan.
Et en catalan, on ne dit pas Juan, on dit Joan.
Et de même, c'est du castillan.
Ben voilà.
Et Joan, du catalan.
Et il y tenait beaucoup.
Et vous l'appeliez Joan ?
On l'appelait Joan, oui.
Voilà, l'un et l'autre, puisque j'ai la chance d'être avec Jean-Louis Prat et Alain Planès, ses amis qui sont réunis autour de moi à cause de la grande exposition Miró faite par Jean-Louis Prat au Grand Palais qui va ouvrir dans quelques heures, quasiment. L'entretien était très beau, hein, quand on préfère l'immobilité des objets à l'agitation des hommes, c'est étrange. Hein.
Oui, mais l'immobilité des objets vous procure comme ça, étrangement, une vérité. Et Miro leur a donné vie. Et la vie qui est créée par Miro est une vie avec très peu de choses. Il met en place l'imprévisible ou la chose la plus précaire. Et la précarité trouve avec lui une force étonnante et nous étonne. Parce que la vie est précaire. Il le savait et il la mettait en scène d'une façon étonnante en accordant justement un sujet, au moindre sujet, une attention particulière. Et l'attention particulière qu'il donnait à tel ou tel objet ou telle chose, eh bien, était pour lui essentielle. C'est comme ça qu'il nous a transmis sa part de vérité, qui est unique dans l'art du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle la poésie, hein, finalement. Et là, dans ce dialogue qu'il a eu avec nous, il nous a donné un sujet d'espoir. Il n'a pas traduit uniquement ce qui se passait. Il a su aller plus loin tout de suite. Quand vous parliez des constellations tout à l'heure, c'était en pleine guerre. Avant, il décrit ce qui va arriver. Là, il s'est dit, il faut créer autre chose. Et il part dans un monde qu'il va interroger. Ces miniatures qui sont comme des miniatures persanes extraordinaires.
Oui, parce que pour que ce soit bien clair pour nous tous, ce sont des bouts de carton qu'il a...
Des bouts de papier, sur du papier.
C'est du papier ?
Du papier, et ça fait, toutes font 38 et 46 centimètres.
Et il y en a combien ?
Il y en a 23.
Série ou pas série ? C'est une série ou c'est pas une série ?
Non, c'est une série, on l'appelle la série des constellations, mais il a fait ça, il s'est arrêté là, voilà, il a interrogé comme ça, pas l'au-delà, parce que c'était pas ça qu'il n'y croyait pas. Il a interrogé tout simplement
le cosmos,
ces scintillements d'étoiles qui pour lui le faisait rêver, et cet espace extraordinaire qu'il a tenté de capter et qui nous a transmis, et qui transmet dans les grands bleus, et qui transmet comme ça dans un espace qui est gigantesque et qui nous dit que la peinture ne vit pas dans la peinture de Chevalet uniquement, mais qu'elle peut se développer sur des espaces très différents.
Alors, Jean-Louis, vous avez déjà attiré dans les années 40. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière ? J'aimerais bien qu'Alain nous parle ou nous décrive au moins ce tableau extraordinaire qui a ce titre, qui aurait pu être le titre de l'exposition. Ça aurait été un titre d'exposition formidable. Ceci est la couleur de mes rêves. Qu'est-ce que ce tableau ?
Eh bien, je pense que ce tableau me fait penser aux yeux de Miro, qui étaient d'un bleu méditerranéen, très clair, très puissant. La première fois que je l'ai rencontré, ça m'a beaucoup frappé. Et finalement, c'est le bleu de la Méditerranée, là, cette tache, c'est la couleur de ses rêves.
Que nos auditeurs comprennent bien, c'est un tableau
qui est quasiment blanc avec une tache bleue Méditerranée. Et puis, simplement écrit photo, très bien calligraphié.
Sur l'anglaise, quoi. Sur la gauche. Ceci est la couleur de mes rêves en dessous. Mais ceci met du temps à écrire. C'est pas écrit. C'est vraiment avec une écriture très appliquée.
C'est un travail de peintre en lettres?
Ah oui, oui, il fait très attention à cela. Il est très attentif. Du reste, Miro était très attentif. C'est pour ça que ça nous touche, parce qu'on se dit, tiens, qu'il y a là une proposition qui est donnée à quelque chose auquel il attache, lui, une importance considérable. Et cette importance, nous la retrouvons et nous sommes obligés de l'admettre comme étant essentielle dans l'œuvre elle-même.
Alors, Miro, à cette période-là, est ami d'un grand poète qui s'appelle Éluard.
Oui.
Qui est aussi ami de Magritte, et Magritte aussi fait des textes dans ses peintures. Ceci n'est pas une pipe, ou bien des éléments sur lesquels il met nuages, etc.
Oui, mais enfin,
c'est la même époque, à quelque chose près.
La même époque. Miro a toujours écrit. L'écriture pour lui était pour essentiel et faisait partie d'une calligraphie qui donnait un pouvoir considérable à la peinture et il y attachait beaucoup d'avance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été si attentif aux poètes et à leurs mots et à la puissance des mots. Et donc quand il les met, ça n'est pas par hasard. Et il leur donne comme ça un pouvoir mystérieux. Mais c'est ce mystère qui nous touche, parce que ça n'est pas une lecture immédiate, c'est une lecture à laquelle on doit songer, et qui nous éveille également l'esprit, et qui nous dit que tiens, on est rentré dans un monde, enfin, qui est très différent de celui auquel nous pensions, qui était tellement la traduction de la réalité.
Et puis c'est un artiste qui a illustré tellement de livres sur les poètes, peut-être un des artistes qui a fait le plus de livres avec des poètes.
Oui, c'est le, il a, de Déluard à Tsara, de Dupin à Michel Léris, avec Jacques Prévert, avec tous les grands artistes, tous les grands poètes, il les a fréquentés. Aragon, enfin tous les, il a connu tout le monde et il a été attentif à leur langage. Des langages aussi différents.
C'est quelqu'un pour lequel on n'imagine pas d'ennemis. Il y a tous ceux qui détestaient Matisse, ceux qui détestent Picasso.
Ces toiles ont quand même été lacérées.
Je ne savais pas.
Il n'a pas eu le temps de s'en occuper, de ceux qui ne l'aimaient pas.
Dans une exposition à Barcelone, au début, je crois que des gens sont venus, et puis surtout au fameux scandale des Noailles, quand les toiles pour l'ange exterminateur, la première, où les fachos sont venus lacérer les toiles de Miro, de Tanguy, qui étaient là dans l'entrée du cinéma.
Il n'y avait pas que lui, il y avait tous les artistes
qui
étaient présents.
Alors, il y a un moment quand même très...
Excusez-moi de vous interrompre, mais je me souviens que Pilar m'avait raconté qu'elle se souvenait de la mère de Miro.
Pilar, c'est son épouse.
C'était son épouse, très chère épouse, une femme exceptionnelle. Et que la mère de Miro pleurait quand elle voyait les œuvres de son fils en disant « Mais vous rendez compte ce qu'il fait ?» Et que le seul tableau qu'elle aimait un peu, c'était le nu cubiste... Tu sais,
le grand nu de 1920, voilà. Le grand nu rouge.
Voilà. Ouais. Donc même la mère de Miro pleurait quand elle voyait les tableaux de son fils.
Il vous en a parlé de cela,
Miro, vous savez, d'abord, Miro ne cherchait pas l'admiration. Alors, il avait une chose, c'est qu'il vivait en famille, avec une famille qu'il adorait. Mais Pilar rentrait dans l'atelier et elle regardait ça avec beaucoup de plaisir. Mais également un certain détachement. Elle n'était pas dans l'admiration de son mari. Et du reste, Miro vivait dans son atelier et Pilar était dans la maison, à 30 mètres. Mais il disait « on va chez Pilar » et elle disait « on va chez Johan ». Et donc, ils rentraient dans un univers qui était tout à fait très différent l'un de l'autre. Mais Miro avait besoin de ce repos-là et il n'avait pas besoin d'admiration des autres. Mais il n'avait pas le temps non plus de savoir si on ne l'aimait pas.
En fait, c'était un très très gros travailleur, non ?
Comme tous les artistes, je dirais. Pratiquement, mais lui, oui. Parce qu'il n'a pas arrêté toute sa vie. Et il a interrogé quand il était un peu lassé, peut-être, sur un matériau, d'en interroger un autre.
Il était assez organisé à Paris, je vais faire les gravures.
Quand il a fait la céramique, eh bien avant, pendant 2 ans, il avait fait beaucoup de dessins dans les années 40. 44, il reprend la céramique. Et puis ensuite, il se met, la céramique conduit les formes à la sculpture. Et la sculpture devient une forme étrange. Il avait attaqué quelques sujets à travers, comme ça, l'accumulation d'objets retrouvés. Mais ensuite, il se mettra carrément à faire de la sculpture, même monumentale. Et donc, c'est pour lui également... le désir de se confronter à un matériau qu'il ne connaissait pas et de se dire qu'il donnait naissance à quelque chose qui allait vivre dans l'espace et non plus contre un mur. Et quand il a créé l'espace de la Fondation, qui est un espace merveilleux, c'est un des plus beaux.
On parle de la Fondation Miro à Barcelone.
Et la Fondation Mag à Saint-Paul. La Fondation Mag à Saint-Paul qui a existé en 64, la Fondation Miro s'est ouverte 11 ans après. Et la Fondation Mag à Saint-Paul a permis à Miro de développer ses formes dans différents matériaux. Il y a à la fois du ciment, de la céramique, du fer, de l'époxy. Il y a tout. Il y a tous les matériaux. Et on voit la générosité de Miro à s'interroger comme ça sur la moindre chose et de dire, tiens, on lui donne une vie différente de celle à laquelle on avait songé. Alors que les sculpteurs sont souvent contraints par un seul matériau qu'ils dominent, lui cherchait pas à dominer. Il cherchait quelquefois même à être peut-être dominé par l'être, mais en lui donnant une puissance et une évocation à laquelle on n'avait pas songé. Et il a créé comme ça ce labyrinthe qui est probablement un des plus beaux jardins au monde, un des plus beaux labyrinthes. On l'a appelé le labyrinthe parce qu'on passe de l'une à l'autre comme ça naturellement, avec le bruit de l'eau, des gargouilles également en céramique.
Les magnifiques gargouilles, oui.
Les magnifiques gargouilles qui laissent tomber l'eau. Et puis on vit au
rythme. Musicienne.
On vit, voilà. Oui. Et c'est là, du reste, on avait donné le spectacle de la Claca. Tu t'en souviens? Je sais pas si tu y étais.
Bien sûr que j'y étais.
Oui, tu y étais. Oui. Et il était là. Et vraiment, c'était pendant un mois, ils ont joué cette troupe au milieu de ces différentes sculptures, donnant vie aux unes et aux autres, et en intervenant d'une façon salutaire, parce que le spectacle avait été donné sur une scène à l'italienne, c'est pas si convenait. Et tout de suite, on avait dit, tiens, et tout le monde était accouru, et Miro était très heureux de voir ça. Et ça avait donné une vie formidable, comme ça, à ces matériaux, à ces couleurs étranges et étonnantes de Miro. Cette interrogation sur le ciel, cette interrogation sur la terre, que l'on avait depuis la ferme, et puis qui d'un seul coup se trouve comme ça mise en scène différemment et continue de nous étonner jusqu'au bout, parce que Miro s'est interrogé jusqu'à la fin sur ce qu'il devait faire de neuf. Alors, il n'a jamais été dans la redite.
C'est vrai qu'il y a une évolution permanente, pourtant une écriture qu'on arrive à suivre de bout en bout. Et dans les derniers tableaux, pas les derniers tableaux parce qu'on est encore loin de la fin de son œuvre, mais il y a une étape quand même extraordinaire dont on ne peut pas ne pas parler. Je voudrais que nous écoutions ce qu'il en dit. Il s'agit des toutes dernières œuvres de Salvatore Mondrodet vers 1959, pas des dernières œuvres de Miro, mais des dernières œuvres de cette période-là. Ce sont les trois grands bleus qu'a le Centre Pompidou, et on va raconter, je voudrais que vous nous racontiez un petit peu ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert cela.
Les toutes dernières œuvres, ce sont les trois grandes toiles bleues. J'ai mis beaucoup de temps à les faire. Pas à les peindre, mais à les méditer. Il m'a fallu un énorme effort, une très grande tension intérieure pour arriver à un dépouillement voulu. C'était comme avant la célébration d'un rite religieux. Oui, comme une entrée dans les ordres. Vous savez comment les archers japonais se préparent aux compétitions ? Ils commencent par se mettre en état, expiration, aspiration, expiration. C'était la même chose pour moi. Je commençais par dessiner au fusain avec beaucoup de précision. Je me mets toujours au travail très tôt le matin. L'après-midi, je regardais seulement ce que j'avais dessiné. Tout le reste de la journée, je me préparais intérieurement. Et finalement, je me suis mis à peindre. D'abord le fond, tout bleu. Mais il ne s'agissait pas simplement de poser de la couleur comme un peintre en bâtiment. Tous les mouvements de la brosse, ceux du poignet, la respiration d'une main intervenaient aussi. Par faire le fond me mettait en état pour continuer le reste. Ce combat m'a épuisé. Je n'ai rien peint depuis. Ces toiles sont l'aboutissement de tout ce que j'avais essayé de faire. Juan Miro, entretien avec Yvon Thaïlandier, 1959.
Vous êtes sur France Culture, mais nous parlons de Miro avec ses deux amis exceptionnels, Alain Planès et Jean-Louis Prat. Vous écoutez L'Art et la Matière, on vient d'entendre Miro raconter la façon dont il a réalisé ces très grands tableaux bleus qui sont conservés au Centre Pompidou et que les amis de Dominique Bozzo et lui-même ont fait effort comme ça de rassembler, ce qui était quelque chose d'extraordinaire, et on entendait par-dessus quelques notes, les vôtres, Alain Planès, qu'est-ce que c'était ?
Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le clair de lune de Debussy, mais avant, je ne sais pas du tout, c'était des notes très séparées.
Un sol.
Un sol, oui, dont je ne suis pas responsable, je crois.
On peut, je crois que vous en êtes, mais il a peut-être été isolé.
Ah, d'accord.
On t'a isolé dans un voilà. Monde.
Mais une sorte de minimalisme, un peu comme les grands bleus.
Qu'est-ce que vous pensez de ces chefs-d'œuvre des trois grands bleus ?
Bah, ce sont des... Qu'est-ce que j'en pense ? Je les aime, je les adore.
Vous pensez que c'est une stase dans l'œuvre de Miro ? Après, il pouvait aller plus loin, il est au bout de ses possibilités.
En même temps, il y a des tableaux bleus qui sont au Centre Pompidou des années 20, qui sont déjà précurseurs de ces grands bleus, avec un fond brossé comme ça.
Plus
bleu clair, oui, mais avec une sorte de minimalisme aussi dans le tableau. Jean-Louis ?
Non, bien sûr. Mais le bleu a toujours été le bleu, la couleur rêvée de Miro, peut-être, mais parce que le ciel est bleu pour lui. Et il doit le rester, évidemment. Il ne met pas des nuages, hein. Il interroge du reste les astres, il interroge les étoiles, le soleil et la lune aussi au sein de ce bleu et de ce ciel. Mais c'est vrai que l'espace qu'il a su créer, et c'est l'interrogation qu'il a dans les années 60, et je suis très heureux qu'il soit réuni évidemment pour cette rétrospective, ainsi qu'un autre triptyque quelques années plus tard, qui est le triptyque « L'espoir du condamné à mort ». Où avec, là aussi, pratiquement rien, Miro s'interroge sur le devenir de la vie et ce qu'il en reste, et l'interrogation de l'homme qui va être garrotté le lendemain. Et Miro a travaillé d'une manière très lente là-dessus aussi. C'est pas du tout un trait lancé comme ça à l'assaut d'un espace où il n'y aurait que de dire un geste. Non, pas du tout.
Le geste... Vous comprenez bien, j'ai envie de dire, c'était la condamnation à mort de ce personnage, c'était simultané quasiment à la réalisation du tableau.
Ça a été fait en même temps. Miro a été averti de ça et il a fait cela en se disant, tiens, il s'est interrogé dans le fond sur la vie. Et l'interrogation sur la vie, c'est évidemment l'interruption brutale qui est donnée par une décision politique absurde et totalement injuste.
Mais c'était Franco.
Qui a été garrotté. Le dernier garrotté de l'histoire du fascisme, enfin oui. De l'histoire espagnole avec Franco.
Je suis, Jean-Louis, au bord d'avoir envie de vous demander de rester encore 3 heures. Mais nous sommes au bout de cette émission.
Alors, on n'est pas au bout de l'œuvre de Miro quand on est avec le triptyque de l'espoir du condamné à mort.
Mais oui, mais
il y a quelques œuvres qui arrivent après et qui sont déjà, je suis très heureux qu'elles soient là, ce sont des grands tableaux, un fond noir et un fond blanc, qui sont absolument incroyables parce qu'il n'y a rien que un jet comme ça qu'il a provoqué en lançant à l'assaut de la toile et du vide, de la peinture, et qui l'a fait démarrer. Quand il dit « il me faut un grain de sable » ou un éclat de lumière, comme point de départ, c'est ça. Et là, curieusement, on se retrouve presque avec un art d'une force et d'une brutalité qui annonce « il y aura Basquiat » dans une autre exposition. Je vais vous dire, c'est un art d'une force extraordinaire et d'une jeunesse étonnante. Car chez Miro, il y a ce sentiment-là. C'est qu'il est toujours du côté de la vie et du côté de la jeunesse. Et il maintient ce dialogue. Il n'y a pas une œuvre qui est vieillissante. Il y a une œuvre qui prend des risques. Et le risque encouru par Miro est un risque fabuleux parce qu'il nous donne le sentiment que nous sommes bien en vie, que nous devons en profiter et que nous devons continuer. Et qu'il nous interroge d'une façon tellement passionnée est tellement rêveuse que l'on se dit que, mon Dieu, enfin, il nous donne un espoir dans la vie.
Merci Jean-Louis Prat, merci Alain Planès infiniment. C'est une très belle conclusion. Merci à tous les deux.
Il faut toujours faire la différence entre ce que désigne une chose et l'idée que l'on a de cette chose.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy. Aujourd'hui, j'ai reçu les amis, les historiens, les témoins de l'œuvre, de la vie, de la pensée de Miro. Jean-Louis Prat, commissaire de l'exposition qui va ouvrir dans quelques heures au Grand Palais, et Alain Planès, le grand musicien. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Cette émission a été préparée avec Seam Boutata, la lecture des textes Johanna Nizar, merci Johanna, prise de son Alain Joubert, réalisation Franck Lilin. La semaine prochaine, je recevrai Pierre Curie et Isabelle Schmitt pour parler de Caravage à l'occasion de l'exposition Caravage à Rome au musée Jacquemart-André, dit Caravage rassemblé, c'est un événement très important. À 15h30, vous retrouverez Joël Gaillot et une saison au théâtre et dans quelques instants, Personnages en personne de Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture. Thank you.